Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Salin. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Et nous vous recevons pour la parution de votre dernier ouvrage, Revenir au capitalisme pour éviter les crises, chez Odile Jacob, un ouvrage de 248 pages, 25 euros. Alors, vous êtes, par ce titre, Revenir au capitalisme, on peut être surpris, mais lorsqu'on connaît vos contributions précédentes, c'est plutôt une impression de continuité qui prévaut. La vérité sur la monnaie ou le libéralisme, entre autres parutions, préparait très largement ce dernier ouvrage, qui d'ailleurs eux-mêmes était paru chez Odile Jacob. Alors, revenir au capitalisme, nous allons revenir sur votre thèse, et si vous le permettez, après avoir apporté quelques éclairages sur votre biographie, sur votre parcours. Vous étiez professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine, auteur et chroniqueur de talent, philosophe et économiste d'inspiration libérale. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la finance publique. Vous êtes un expert reconnu au niveau international. Vous avez travaillé comme consultant pour le service d'études du Fonds monétaire international, le FMI, et pour l'Organisation des Nations Unies à travers le FAO et le Harvard Institute. Vous êtes un esprit libre, proche des thèses de Frédéric Bastiat et de Frédéric Hayek. Vous avez pris position notamment en faveur direction sur la libéralisation des services de l'Union européenne. Et on vous décrit comme un libéral complet, selon une expression, un homme libre. Et vous avez reçu au moment de votre départ en retraite, mais vous nous direz tout à l'heure que ce mot-là n'a pas grande signification pour vous.
C'est vrai.
En hommage, un mélange en votre honneur qui a rassemblé 41 contributions d'auteurs du monde entier, dont le prix Nobel Gary Becker et d'éminentes personnalités dont Alain Madelin et Raymond Boudon de l'Institut. Et nous sommes ici dans les locaux de l'Institut. Je crois que la présentation est assez complète, à moins que vous voulez dire un mot sur votre nouvelle situation de jeune, entre guillemets, retraité.
Non, simplement pour dire que je suis effectivement extrêmement occupé, que la retraite, je ne connais pas vraiment. Et j'en suis heureux parce que le métier que j'exerce a ce grand avantage de ne pas avoir de limites. C'est aussi un inconvénient parce qu'on est toujours en retard par rapport au projet que l'on a, par rapport aux choses que l'on s'engage à faire.
D'accord, donc la discipline s'éloigne un tout petit peu, mais l'envie de faire est toujours là.
L'envie existe, absolument.
Alors, vous dites donc que la crise financière est économique mondiale et selon vous, plus le fruit d'une mauvaise réglementation et d'une mauvaise politique économique et monétaire que celle d'un excès de capitalisme. Au contraire, vous plaidez pour un retour du capitalisme, justement pour régler ce problème. Alors, cette réflexion est au cœur de votre thèse, et vous avez un chapitre d'ailleurs qui veut clairement dire ce que je suis en train de décrire, pour en finir avec les idées fausses et pour retrouver les vraies causes de la crise, en page 13. Alors, vous avez trouvé plusieurs crises. Je voudrais qu'on revienne sur ce premier débat, sur ces points. Alors, c'est quoi cette véritable crise en profondeur?
La véritable crise. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas simplement le cas de la crise que nous venons de connaître, mais je crois que toutes les crises du monde moderne ont la même nature, sont des crises monétaires et financières qui sont dues essentiellement à une politique monétaire trop expansionniste. L'un des drames, du point de vue économique, l'un des drames de notre époque, c'est que les autorités monétaires peuvent indéfiniment, sans limite, créer de la monnaie en créant en contrepartie des crédits qui sont distribués par les banques, mais des crédits qui ne correspondent pas à une épargne véritable. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce qu'on crée des illusions. Et il me semble que cette crise monétaire, comme d'autres, elle est donc à la jonction de deux phénomènes, le phénomène monétaire que je viens rapidement d'esquisser, et puis un phénomène différent qui est le phénomène de l'épargne. Là encore, je crois qu'il faut redresser un petit peu, mettre à l'endroit les idées que je considère comme étant à l'envers, à savoir qu'on vit avec un préjugé keynésien qui consiste à dire qu'il faut stimuler la consommation pour stimuler l'activité économique. Je crois que c'est une erreur majeure parce qu'il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital, et l'accumulation de capital, c'est l'épargne. Or, nous sommes actuellement dans le monde, à l'exception de certains pays émergents comme la Chine, c'est tout à fait caractéristique, qui a un taux d'épargne de 40% à peu près depuis des décennies. Mais nous sommes dans une situation où l'épargne est insuffisante, on le dit suffisamment souvent à propos des États-Unis, et je crois pour ma part que c'est la conséquence en particulier des politiques fiscales. Alors, nous n'avons pas le temps de développer en détail les raisons pour lesquelles on peut dire que les systèmes fiscaux de notre époque sont hostiles à l'épargne, mais ils punissent le choix du futur. Ça me paraît grave d'ailleurs, même d'un point de vue philosophique, parce que l'être humain est un être qui est capable de choisir le futur. Et on le punit et on l'incite à consommer et avoir des satisfactions immédiates. Donc, dans la mesure où l'épargne est insuffisante pour financer une croissance potentielle, parce que l'esprit humain est toujours en train d'inventer, d'innover, et donc il y a des investissements à faire, eh bien, les autorités monétaires croient trouver un relais dans la création monétaire. Et c'est ce qu'on a vu au début de ce siècle. On a eu une politique monétaire terriblement expansionniste aux États-Unis en particulier, mais aussi dans le reste du monde, comme s'il y avait un effet de contagion de mauvaise qualité. Et l'une des caractéristiques de cette expansion monétaire, c'est la variabilité du taux d'intérêt. On peut citer le cas de l'objectif du taux des fonds fédéraux aux États-Unis. Il est passé de 6,5% en 2000 à 1% en 2003, en très peu de temps. Et on ne peut pas imaginer sur un marché où le taux d'intérêt serait déterminé par l'offre et la demande de fonds prêtables, on ne peut pas imaginer une telle variabilité. Donc la cause majeure de la crise que nous avons connue, c'est cela, parce que des bas taux d'intérêt et des liquidités abondantes, ça incite les producteurs à investir pour des projets qui ne seraient pas normalement rentables, qui sont trop risqués. On choisit donc de mauvais investissements. Et la conséquence majeure donc de cette politique monétaire, c'est de créer des distorsions dans les structures productives, dans les structures de prix. Et ça, c'est ce sur quoi ont insisté les auteurs de ce qu'on appelle l'école autrichienne du cycle économique, en particulier Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Et ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que cette école, cette théorie de l'école autrichienne est, me semble-t-il, la seule qui explique bien les crises financières. Elle est très mal connue, et en particulier en France. Alors, la création monétaire a été la cause majeure de la crise, mais il y a eu, bien entendu, d'autres causes, mais qui, pour moi, sont aussi des causes dues à l'interventionnisme étatique. Et c'est pourquoi je crois qu'il est important de débattre de cette question, parce qu'on entend dire trop souvent que la crise est le symptôme d'un mauvais fonctionnement du capitalisme, et il faut par conséquent que les États réforment le capitalisme ou même le moralisent, alors que c'est l'inverse qui se passe. Alors que c'est l'inverse, ce sont les autorités monétaires qui ont déstabilisé un marché qui, sinon, n'aurait pas fonctionné de manière parfaite, car la perfection n'existe pas. Les êtres humains ne sont pas parfaits, mais auraient mieux fonctionné en tout cas.
Alors, donc, vous pointez du doigt les vraies causes de cette crise.
Ce que j'espère être les vraies causes.
Qui ne sont peut-être pas tout à fait celles du consensus, mais enfin, en
Absolument.
Tout cas, vous êtes un esprit libre et vous le démontrez à nouveau, un libéral et un esprit libre. Alors, vous pointez du doigt la responsabilité des États et de la réglementation, bien entendu.
Absolument. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur la réglementation et c'est un petit peu technique. Je voudrais juste donner un exemple parce qu'il me paraît important. On dit constamment que les banques centrales sont nécessaires parce qu'elles ont une fonction particulière qui est d'être ce qu'on appelle un prêteur en dernier ressort. Un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire une institution qui, en cas de difficulté, sauvera une banque de la faillite. Et alors, ceci me paraît très grave parce que la faillite, c'est, il faut bien le reconnaître, un mécanisme régulateur fondamental d'une économie capitaliste. C'est la crainte de la faillite qui empêche de prendre trop de risques. Mais si on dit aux banques, comme on l'a dit constamment au cours du siècle passé et maintenant, qu'elles peuvent faire n'importe quoi et que la banque centrale sera là pour les sauver.
Le prêteur de dernier ressort.
Le prêteur de dernier ressort va intervenir, va leur prêter des fonds, etc. Eh bien, c'est la prise de risque sans risque, en quelque sorte. C'est-à-dire que les banques sont incitées à prendre des risques importants parce que c'est rémunérateur. Et puis, elles savent que si elles exagèrent et si elles ont des difficultés, eh bien, la banque centrale sera là pour les sauver. Et c'est donc paradoxal parce qu'on nous dit constamment que la banque centrale doit jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort pour éviter ce qu'on appelle une crise systémique, c'est-à-dire une crise du système dans son entièreté. Et en réalité, c'est le fait que le prêteur en dernier ressort existe qui crée le risque systémique puisqu'il incite toutes les banques à prendre trop de risques. Alors, si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter une chose
Bien sûr.
Propos des banques, parce qu'il y a ce thème fréquent que l'on entend dire, selon lequel les capitalistes ont pris trop de risques et y voient à court terme. Et il y a là un thème qui me paraît important et mal compris, mal connu. Parce qu'en réalité, à notre époque, ce qui se passe, c'est que les banques sont d'énormes organisations, le plus souvent, avec un très grand nombre d'actionnaires qui n'ont pas le moyen d'exercer un pouvoir de contrôle. Et donc, les vraies décisions sont prises non pas par des capitalistes, les capitalistes, ce sont les propriétaires,
par la technostructure.
Mais par la technostructure, exactement. Et la technostructure a intérêt, évidemment, à maximiser les profits de court terme. Et ceci est tout à fait différent de ce qu'on pouvait connaître au 18e ou d'une partie du 19e siècle, où les banques étaient de moins grande dimension, où elles étaient possédées par des vrais propriétaires capitalistes, et les fonds propres représentaient parfois jusqu'à 60 ou 80% du bilan des banques. Donc le propriétaire capitaliste, il n'a pas intérêt à faire faillite, donc il ne prend pas trop de risques. C'est quelque chose de tout à fait différent.
Oui, oui. Donc vous ne mélangez pas capitalisme et banque.
Exactement.
En quelque sorte.
Exactement.
Ce qui, bien entendu, dans l'opinion publique, et chez certains politiques, généralement présenté comme étant bonnet blanc et blanc bonnet.
Absolument, on a tendance à confondre capitalisme et banque, et également capitalisme et grandes entreprises. Pour moi, le capitalisme, c'est un système de droit de propriété légitime.
C'est ça.
Et ce qui est le fondement de la responsabilité.
Justement, puisqu'on dit un mot sur les banques, ça va nous permettre de rejoindre l'actualité. Les banques françaises, contrairement à l'anathème qui a été jeté sur elles, s'en sont plutôt bien sorties. Alors comment vous expliquez cette haine de l'opinion publique et parfois des politiques pour la banque en tant que telle, y compris pour celles qui fonctionnent normalement? Enfin, vous avez un sentiment...
Oui, c'est assez étrange, mais je pense que c'est un sous-produit de quelque chose de plus général, à savoir la critique constante qu'on a en France contre le pouvoir de l'argent. L'argent a quelque chose de mythique, n'est-ce pas, bien entendu.
Et de malsain.
Et de malsain, absolument. Malsain, ouais. Et d'immoral, etc. Ouais. Enfin, tout le monde, en fait, espère avoir un peu plus d'argent, mais bien souvent, quand même, des critiques, peut-être par jalousie, je n'en sais rien. Mais c'est peut-être le sous-produit aussi d'une mentalité plus ou moins marxiste qui consiste à considérer qu'il y a des classes antagonistes qui sont les employeurs et les salariés, et que les employeurs font des profits aux dépens des autres. Et alors,
exploitent la classe ouvrière,
etc. Je crois qu'il y a toute cette mentalité qui est quand même très enracinée profondément en France. Et une fois de plus, l'argent est un peu le symbole de la richesse.
Et donc les banques l'expriment.
Les banques, voilà, expriment ce biais que l'on a contre la richesse.
Alors pour en finir avec les idées fausses, il y a un développement que vous faites en page 69 qui est très intéressant concernant les agences de notation, le monopole des agences de notation. Et vous soulignez effectivement un point qui ne l'est pas souvent, c'est de dire qu'il n'y a pas de véritable concurrence entre les principales agences de notation. Et là, vous y voyez un effet pervers notable.
Absolument.
Et alors, mais comment sortir de cette situation? Parce que quelle est l'alternative?
Alors, peut-être justement déréglementer, parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a, si j'ai bonne mémoire, 3 agences de notation qui sont reconnues par les autorités monétaires pour certifier justement les comptes, enfin pour donner des notes aux banques. Alors, elles bénéficient d'un pouvoir monopolistique, n'est-ce pas? Il n'y a pas de véritable concurrence. Et ce qui les intéresse surtout, c'est d'essayer de faire plaisir à la fois aux banques et puis aux autorités financières. Donc, pour en sortir, il suffirait justement de déréglementer, c'est-à-dire de supprimer ce monopole. Le monopole, il est toujours mauvais. Mais le seul monopole qui est véritablement mauvais, c'est celui qui peut durer longtemps. Il ne peut durer longtemps que s'il y a une interdiction par une loi ou une réglementation d'entrer sur le marché.
C'est
le cas.
Bien. Alors, donc, haro, d'une certaine façon, sur Greenspan, haro sur la réglementation. Et donc, vous êtes favorable à l'autorégulation.
Oui, absolument.
Qui est la vertu finale, en fait, du libéralisme.
Bien entendu. Alors, c'est quelque chose, évidemment, de compliqué, parce que les gens, spontanément, ils revendiquent la liberté. Mais ils ont du mal à comprendre qu'un système de liberté peut apporter une régulation, peut apporter du bien-être, etc. Et je conçois que ça soit difficile, parce que nous sommes dans des sociétés extrêmement complexes, et la gestion de la complexité est quelque chose de difficile. Et donc, on a assez facilement la tendance à considérer qu'il faut centraliser les décisions comme si un cerveau supérieur pouvait être capable d'assimiler toutes les informations existantes. Le grand mérite du marché, c'est qu'il permet d'utiliser au mieux une information très dispersée, et je devrais dire d'ailleurs une information créée par ceux qui sont concernés, car l'information, ce n'est pas une donnée, c'est quelque chose qui se crée continuellement, par des systèmes d'aller-retour, d'essais et d'erreurs. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de ce point de vue-là l'importance des erreurs. Les êtres humains sont capables d'apprendre de leurs erreurs. Une fois de plus, le marché n'est pas quelque chose qui fonctionne de manière parfaite, mais c'est quelque chose qui permet de se corriger, d'apprendre de ses erreurs et qui permet d'expérimenter. C'est ça qui est tout à fait important. Alors que lorsque vous avez une décision qui est prise centralement pour un pays ou encore pire pour le monde entier, il n'y a plus possibilité d'expérimentation. Donc si on fait une erreur, puisque l'erreur existe toujours, cette erreur c'est une méga erreur et elle a des conséquences qui sont importantes et on ne connaît pas bien la solution. Le risque, justement, c'est qu'on ajoute une nouvelle réglementation parce que la réglementation...
C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec le problème bancaire. Enfin,
exactement, exactement.
La crise financière.
Exactement. Et c'est un de mes soucis, d'ailleurs, parce que pour sortir de la crise, on prétend qu'il faut réglementer plus. Ces nouvelles réglementations risquent fort d'être incohérentes, d'être mal conçues, etc. Ce sont les mêmes pour tout le monde, alors que chaque situation est spécifique. Et donc, on a le risque de nouveaux effets pervers, comme on les appelle, mais ce ne sont pas des effets pervers, ce sont des effets qui sont prévisibles dans une certaine mesure. Et donc, il y a le risque d'un cercle vicieux, d'une réglementation constante plus développée, plus profonde.
Alors, pour en finir avec les idées fausses, vous avez cette phrase que je cite à la page 71. « La réglementation empêche la régulation. La déréglementation est le meilleur moyen de rendre possible l'autorégulation. » Je crois que là, tout est dit sur
Je crois, mais si vous me permettez, je voudrais justement insister, parce qu'il y a un problème de vocabulaire qui est important. Il faut toujours faire attention aux mots qu'on
tout
utilise.
À fait.
Parce qu'on a trop tendance, en France, quand on parle de régulation, à confondre régulation et réglementation. Et c'est peut-être à cause de l'anglais, parce qu'en anglais, « regulation » signifie « réglementation ». Et donc, on confond les deux. Et quand on parle de la régulation des marchés, on a à l'esprit de la réglementation. Mais c'est une idée fausse. Et pour ma part, justement, comme je le dis, c'est la déréglementation qui permet la régulation.
Voilà. Alors vous avez quelques mots aussi sur Keynes. Keynes oui. A-t-il gagné ? La réponse me semble être plutôt non de votre
pour moi,
point de vue.
Pas, oui.
Et je vous lis ce que vous avez écrit. « L'État déplace des ressources et n'en crée pas de nouvelles. » À la page 131, « La création monétaire n'a d'effet qu'à court terme et pas sur le long terme. » À peu près tout est dit sur le sujet.
Une grande partie, en effet. C'est vrai. Parce que ce qui est certain, c'est que Keynes, il s'est en fait beaucoup plus intéressé à la sortie de crise ou à la sortie du chômage, si on veut, qu'à la cause même des phénomènes. Et je trouve ça d'ailleurs assez inquiétant parce que pour corriger une situation, il faut connaître les causes. Or, Keynes, de ce point de vue-là, était assez vague. Pour lui, s'il y a du chômage, s'il y a une crise, etc., c'est à cause d'événements exogène. Exogène, c'est un peu un fourre-tout mal expliqué, c'est qu'on refuse l'explication. Et il dit par exemple qu'il peut y avoir des paniques qui se créent, etc. Mais c'est quand même insuffisant, me semble-t-il. Et alors, je suis très surpris de voir qu'au cours de la crise récente, bien des médias ont dit « c'est la victoire de Keynes, Keynes a montré que pour sortir de la crise, il fallait dépenser plus ». Et d'où les politiques de relance, les politiques de création monétaire, exactement ce que l'on voit dans le monde actuellement, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Et pour Keynes n'a pas vu, par exemple, l'importance du taux d'intérêt, qui est le prix du temps pour lui, c'est le prix de la monnaie, ce qui est quelque chose d'un petit peu bizarre. Et donc, il considère que le taux d'intérêt est important dans la mesure où, en le baissant, on peut stimuler l'investissement. Ouais. Mais là encore, l'investissement pour lui, ce n'est pas important du point de vue de la capacité nouvelle de production que l'on crée, mais en tant tout simplement qu'un élément de la demande globale. Et donc, il est obnubilé par ça, et son problème, c'est d'augmenter la demande globale. En ce qui concerne les dépenses publiques, l'une des recettes keynésiennes traditionnelles, à savoir faire du déficit public, augmenter les dépenses publiques pour
ça
relancer la demande, il y a, me semble-t-il, tout de même une erreur majeure dans cette prescription. Parce qu'il faut bien financer le déficit, il faut bien financer les dépenses publiques. Or, il n'y a que deux moyens. Ou bien on finance par l'impôt, et c'est autant de pouvoir d'achat en moins pour les individus, donc la demande diminue d'autant d'un autre côté. Bien on emprunte, et c'est d'autant de ressources de financement qui ne sont plus disponibles pour les entreprises. Et c'est ce qui m'inquiète justement actuellement avec l'endettement considérable que l'on voit aux États-Unis ou en France, alors que les ressources de financement sont plus faibles, parce que heureusement, on a pendant un certain temps tout au moins un peu ralenti la création monétaire, eh bien l'État se sert de manière considérable sur cette assiette de financement qui est plus faible.
Et donc le prend sur les investissements du secteur.
Absolument, sur les investissements productifs.
Alors, voilà pour ce qui est la partie du diagnostic. Il faut maintenant venir à vos solutions. Ou plus exactement, vous commencez par dire ce qu'il ne faut pas faire.
Oui.
Trois exemples de ce qu'il ne faut pas faire et un exemple précis de ce qu'il faut faire.
Trois exemples de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire la politique de relance par la demande, et plus particulièrement par la dépense publique et le déficit. Et d'ailleurs, je trouve assez extraordinaire de voir qu'il y a un an, tout le monde est plaidé en faveur de la dépense publique, et puis maintenant, les États sont un peu paniqués en voyant les déficits qu'ils ont créés. La deuxième solution mauvaise, c'est celle qui consiste à faire de la création monétaire, tout simplement parce qu'on risque d'avoir un nouveau cycle comme celui qu'on a eu. C'est pas la solution, c'est une illusion de croire que l'on peut, par la création monétaire, relancer l'économie. Troisième mauvaise réponse, c'est de réglementer davantage. Nous en avons discuté tout à l'heure.
Je reviendrai sur un dernier point. Et donc, votre priorité, en quelque sorte, si demain vous êtes nommé ministre des Finances, vous préconisez quoi ?
Justement pour cette raison. Mais je crois que la première réponse qu'on pourrait donner, c'est ne rien faire. Ne rien faire parce que l'économie a été déstabilisée par les politiques économiques. On n'a pas permis au marché de s'autoréguler. Donc, il faut maintenant laisser le marché faire les ajustements nécessaires. Et en particulier, j'ai insisté sur ce fait que la crise a eu une conséquence importante, à savoir les distorsions dans les structures de prix et les structures de production. Ce qui veut dire que les structures de production ne correspondent pas à la structure des consommations ou du partage désiré entre la consommation et l'épargne.
Donc, pourquoi c'est sur ce point, la raison de cette distorsion ?
La raison de cette distorsion, c'est que la nouvelle monnaie qui a été créée, les nouveaux crédits qui ont été distribués, ont été distribués non pas à tout le monde, mais plus particulièrement
sur des segments
aux investisseurs. Et les investisseurs ont été incités justement à demander des crédits pour des financements à très long terme, l'immobilier, l'automobile, etc. C'est des secteurs dont on a vu qu'ils étaient précisément en crise parce qu'ils s'étaient trop développés. Oui. Et alors après, il faut revenir à la réalité et coller davantage à la demande des consommateurs et épargnants, à la demande finale. Donc, la première des réponses que je donnerais, c'est celle-ci, ne rien faire. Mais il faut peut-être aller plus loin. Et d'abord, il y a ce problème de l'épargne, puisque je soulignais tout à l'heure que l'une des causes profondes de cette crise, c'est l'insuffisance d'épargne dans beaucoup de pays développés. Donc, il faut y porter remède. Ceci implique une réforme fiscale dont je n'ai pas le temps de donner tous les
cette
traits.
Cette piste-là vous paraît importante ?
Elle me paraît importante.
Fiscalité pour l'épargne.
Le passage de la retraite par répartition à la retraite par capitalisation, on l'a vu dans les pays qui ont fait ce passage, le taux d'épargne a augmenté considérablement et le taux de croissance a augmenté. Il n'y a pas de miracle, n'est-ce pas ? Donc, voilà deux choses qui me paraissent importantes. Et puis alors, il y a évidemment la monnaie. Alors, c'est là que les prescriptions que je serais tenté de faire sont peut-être le plus difficilement acceptées parce qu'elles paraissent
iconoclastes.
À savoir que, paraît frappant, si on regarde l'histoire, qu'il n'y a jamais eu autant d'inflation et de crise monétaire que depuis que les banques centrales existent. Et une conséquence logique me paraîtrait être de supprimer les banques centrales, ce qui me semble choquant.
Une mesure là radicale, pour le coup.
C'est une mesure radicale. Alors, même si on ne veut pas aller aussi
loin...
Mais non
plus libéral.
Ah oui, bien entendu, parce que là encore, je crois que la monnaie est quelque chose de si important qu'il faut véritablement permettre la concurrence, comme ça a été le cas dans toute la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas ? Mais même sans aller aussi loin, si on avait des politiques monétaires beaucoup plus stables, on ferait déjà un progrès. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais juste insister, c'est que contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas nécessaire de créer de la monnaie. Et je voudrais juste en un mot dire pourquoi. Imaginez que vous ayez une seule monnaie dans le monde et que vous ayez une quantité de monnaie stable pour toujours. On ne crée pas de monnaie. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a du progrès économique. Par exemple, un taux de croissance moyen de 5%, comme ça a été le cas au début de ce siècle. Eh bien, le prix des biens en termes de monnaie va diminuer, plus ou moins selon les biens, selon que la productivité augmente plus ou moins. Et de cette manière, les besoins monétaires vont être satisfaits. Pourquoi ? Parce que dire que les prix des biens en termes de monnaie va diminuer, c'est dire que le prix de la monnaie en termes de biens va augmenter. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de la monnaie va augmenter. Et ça me paraît important parce que la monnaie, elle est utile dans la mesure où elle est un pouvoir d'achat en attente. Donc la monnaie va gagner du pouvoir d'achat à chaque époque. Par conséquent, avec une même quantité de monnaie, les individus pourront acheter de plus en plus de biens du fait de la productivité. On n'a pas besoin de leur donner des encaisses supplémentaires. Ce qui est important pour eux, ce n'est pas la quantité nominale de monnaie qu'ils ont, mais le pouvoir d'achat réel que représentent leurs encaisses monétaires. Donc, on pourrait très bien décider de ne plus jamais faire de création monétaire et par conséquent, de ne pas faire cette création illusoire de crédit qui lui correspond. Et nous serions certainement dans le meilleur des mondes, de ce point de vue-là, le meilleur des mondes monétaires.
Oui.
Donc, ce sont des prescriptions qui peuvent paraître évidemment excessives, mais qui me paraissent parfaitement fondées.
Oui, mais serait un défaut que les politiques n'accepteront jamais, c'est-à-dire de leur enlever ce pouvoir et cette liberté, justement.
Ah, ça, bien sûr. Mais
D'où la responsabilité des hommes politiques et des États. Vous dites au passage, mais je passe rapidement parce que nous avons beaucoup développé votre sujet, qu'au moment du G20, que la coopération internationale est en résumé qu'une illusion et qu'on peut se passer de coopération internationale, toujours pour la même raison libérale, j'imagine.
Exactement, parce que je crois que la concurrence est toujours bonne. Elle est bonne dans tous les domaines. Elle est bonne dans le domaine des politiques économiques. Là encore, il vaut mieux expérimenter, avoir des expériences différentes et puis essayer d'en tirer des leçons.
Alors, je terminerai en vous posant deux questions, mais avec une réponse très rapide sur l'actualité. La première, c'est, on va dire franco-française, une croissance sans emploi, on n'en sort pas, le chômage des jeunes. Croissance sans emploi, c'est ça, la croissance n'est pas suffisante pour créer de l'emploi aujourd'hui en France. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Et surtout, on voit que les jeunes sont particulièrement pénalisés par cet effet.
Une croissance sans emploi, mais une croissance faible. Je crois que c'est important de souligner que la crise économique, elle est venue sur un fond de crise à plus long terme qui existe depuis des décennies,
avec une croissance faible
et un taux de chômage qui est élevé. Et pour moi, c'est la conséquence, bien entendu, là encore, d'une fiscalité excessive et de réglementation excessive.
Donc de trop d'État.
De trop d'État, absolument.
Dernier point, la crise du Japon, sur tous les plans. À votre avis, des conséquences très lourdes sur l'économie mondiale ou, hormis bien sûr les aspects humains et sociaux qui de toute façon sont extrêmement graves, sur le plan économique pur, on imagine que ce n'aura pas des conséquences gigantesques.
Oui, je crois effectivement que ce qui est le plus important, c'est l'aspect humain de ces problèmes actuels. J'ai une confiance considérable dans les êtres humains et ils sont capables de franchir les pires des obstacles. Et donc, ces difficultés terribles que rencontrent un certain nombre de Japonais, ils arriveront à les surmonter. Les conséquences pour l'économie mondiale, elles me paraissent relativement faibles parce qu'après tout, la reconstruction qui va être nécessaire, elle représente un pourcentage qui est faible par rapport au monde. Bien entendu, ce qui est détruit et ça signifie que des facteurs de production qui auraient été utilisés à autre chose vont être utilisés à cela. Bien évidemment, mais ça représente tout de même quelque chose de marginal par rapport au reste. Ouais. Si on libérait les économies dans le monde, eh bien c'est ça qui serait important pour avoir une prospérité beaucoup plus grande.
Alors pour terminer, je vous citerai ce que vous dites dans votre conclusion. Ce qui est immoral, nous l'avons vu, ce n'est pas le comportement des managers qui a conduit à la faillite. La faillite est la sanction des erreurs. Ce qui est immoral, c'est que l'État utilise un pouvoir de contrainte pour voler des ressources à des contribuables qui ne sont pas responsables des erreurs faites par les autorités publiques, par les banquiers et leurs salariés. Voilà donc, je crois, une bonne synthèse de votre pensée profonde. Et vous rejoignez à cela un peu l'esprit de Turgot. Non pas laisser faire, laisser aller, mais laisser nous faire.
Absolument.
Bien. Monsieur le professeur, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur notre antenne.
Mais c'était pour moi un grand plaisir d'être là.
Nous vous retrouverons pour votre prochaine parution. Je ne doute pas qu'il y en ait d'autres. Et merci une nouvelle fois. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pascal Salin, Revenir au capitalisme pour éviter les crises, chez Odile Jacob, 248 pages, 25 euros. À très bientôt, monsieur le professeur.